Et une nouvelle semaine de découverte du Limousin, une semaine particulière puisque c'est la 100e de destination en coulisses du Limousin et peut-être à plus forte raison d'ailleurs un clin d'œil pour cette 100e puisque là on va vraiment aller dans les entrailles du Limousin et au cœur de Limoges pour être tout à fait précis. Nous sommes accompagnés d'Éric Bouteau qui est guide conférencier à l'office de tourisme de Limoges et avec lui nous allons partager et explorer le fameux souterrain de la Règle. Nous allons descendre quelques mètres sous nos pieds ici à Limoges. Alors on n'y est pas encore, on entend peut-être les petits oiseaux autour de nous, on a de la chance de profiter du soleil. On est installé au jardin de l'évêché et Eric, c'est ici que va pouvoir partir cette balade très particulière.
Voilà, c'est ici que pour la dernière fois peut-être nos visiteurs vont pouvoir observer le ciel et écouter les gazouillis des oiseaux parce qu'ils s'apprêtent à rentrer dans un monde clos, dans un monde forcément obscur. Et qui présage, voilà, un beau voyage dans les entrailles de Limoges.
Profiter du soleil au cas où on ne remonterait jamais d'ici à la fin de la semaine. Alors, qui dit souterrain de la Règle dit peut-être souterrain au pluriel. Il faut peut-être déjà qu'on précise les choses. Il y a vraiment différents types de souterrains.
Voilà, effectivement, le terme même de souterrain renvoie à beaucoup de généralités. Donc, c'est un mot générique. Prenons la définition la plus simple, souterrain, c'est ce qu'il y a sous terre. Hein, vous savez, on a tous été un jour dans un parking souterrain, c'est un souterrain. Alors effectivement, à Limoges, l'intérêt, c'est que ce sont des souterrains anciens, donc il y a une notion patrimoniale. Et derrière cette notion de souterrain, donc sous terre, on va décliner les différentes typologies de souterrains, dont par exemple ce qu'on appelle les boyaux, ce sont des tunnels de circulation, caves, basses caves, ce qu'on va trouver majoritairement à Limoges, c'est-à-dire des lieux de stockage. Après les aqueducs, qui sont les ouvrages sur lesquels circule évidemment l'eau, il y a des souterrains qui font l'objet de plus de fantasmes qu'une notion historique plus forte, comme les catacombes. Les catacombes, les premiers catacombes, enfin, parmi les premiers, il y a ceux bien sûr de Rome notamment, hein, où les premiers chrétiens étaient enterrés, inhumés. Les ossuaires dans lesquels on a mis, si je puis dire, dans des armoires ou dans les murs, comme à Paris notamment, les crânes, les ossements des défunts. À Limoges, par exemple, il y a l'ossuaire qui est à côté de l'église Saint-Pierre du Carrois. Et encore d'autres, notamment comme les cryptes qui étaient des espaces souvent enterrés, comme la crypte de la cathédrale de Limoges ou la crypte Saint-Martial, bien connue. Voilà la diversité des souterrains.
Donc là, on ne devrait pas creuser de crâne, a priori, on était plutôt sur des lieux de stockage. Enfin, on va voir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ces souterrains, on sait combien il y en a sur Limoges, on a réussi à tout répertorier.
Alors, c'est un travail qui a commencé il y a plusieurs décennies, des sociétés archéologiques mêlées aussi à la spéléologie, hein, c'est des explorations, notamment Société Arkéa et aujourd'hui la ville aussi de Limoges qui prend le relais et tous les services archéologiques s'intéressent et des estimations avaient été faites, hein, ce qui est un chiffre qui est vraiment une évocation, une estimation à peu près 70 km de portions sous terre, mais qui sont disséminées un petit peu partout dans Limoges.
Mais pour l'instant, une seule seulement est ouverte au public.
Voilà, une seule est ouverte au public, c'est le souterrain de la Règle. Et à terme, sans trop s'avancer, il y aurait toujours des volontés d'augmenter les surfaces visibles. Voilà, qui sont importantes et donc ces découvertes se font au gré des relevés, notamment quand vous voyez des travaux dans le centre-ville. Souvent, il y a des relevés qui sont faits dans les différentes caves souterraines de Limoges.
C'est vrai qu'on découvre toujours des choses, hein. On va penser aux travaux sur la place de la République par exemple, on fait des travaux et on tombe sur des choses historiques qui font que on fait progresser à la fois l'histoire de Limoges, l'histoire du Limousin et peut-être mettre à jour des choses à visiter dans les années qui viennent.
Tout à fait, effectivement, notamment actuellement, hein, même si c'était on est sur les fondations des églises, l'église donc du Sauveur qui était dans le grand complexe monastique de Saint-Martial est en train d'être mise à jour et de révéler ses secrets, la crypte souterraine qui sera de nouveau ouvert dans les années à venir. Donc ça, ce sont les données archéologiques d'aujourd'hui. Et donc Limoges, pour ça, est quand même une ville très singulière. Il y a une véritable curiosité et qui est relayée par les érudits, mais on en parlera, depuis au moins le 18e siècle.
Voilà. On va les relayer, nous aussi, en tant qu'érudits, bien évidemment. On va visiter et découvrir tout ça ensemble tout au long de cette semaine. On va, dans quelques minutes, franchir la porte de ce souterrain de la Règle, hein, pour rentrer effectivement dans ce pan d'histoire. Le travail du conférencier et du guide, en tous les cas de l'office de tourisme que vous êtes, c'est quoi? C'est vraiment faire partager cette histoire-là. On se passionne forcément pour l'histoire de Limoges, qu'on découvre peut-être d'ailleurs au fur et à mesure, année après année.
Le conférencier est bien bien, il faut pas qu'il soit trop claustrophobe. Et le conférencier développe des talents de nyctalope ou de voilà comme les chats pour pouvoir avoir une vision nocturne des plus élaborées. Le conférencier se passionne et puis il est alimenté par les spécialistes autres qui donnent matière aux propos. Mais le public vient toujours. Très avide en tout cas et repart voilà avec une meilleure connaissance d'une réalité au-delà du fantasme.
Alors pour découvrir cette réalité et ce pont de notre histoire, restez avec nous tout au long de cette semaine et dans le prochain rendez-vous. Comme promis, nous passerons donc la porte, on va juste profiter encore un tout petit peu de ces rayons de soleil. Et notre deuxième rendez-vous à la découverte du souterrain de la Règle à Limoges. Nous sommes avec Éric Bouteau, guide conférencier à l'Office de tourisme de Limoges pour ce 100e numéro de destination et qui va nous entraîner vraiment au cœur dans les entrailles de Limoges et du Limousin puisqu'on va découvrir une vraie partie de l'histoire. Alors j'allais dire méconnue mais de moins en moins puisqu'effectivement c'est un lieu extrêmement visité par les touristes et par les locaux. On est devant la porte, donc on resitue Éric la localisation.
Effectivement. On est dans les jardins de l'évêché, vastes jardins qui sont donc sous la cathédrale de Limoges. On est dans le quartier historique de la cité, une ville à part entière au Moyen-Âge. Et ces jardins qui s'étendent sur 5 hectares et qui dominent la Vienne, voilà, sur une des terrasses supérieures. Nous étions ici sur le site d'une abbaye, l'abbaye de la Règle.
D'où le nom, effectivement, de ce souterrain de la Règle. Alors, on va pousser la porte dans un instant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est presque cachée comme ça. Il faut descendre quelques marches. On est entre deux buissons. Il y a déjà ce petit côté. Ça met un petit peu dans l'ambiance.
Effectivement, on est à la limite du rite initiatique. Il est bien dissimulé. C'est souvent les gens, il faut tourner la tête à gauche et ils voient l'entrée du souterrain. Et c'est souvent comme ça qu'ils viennent à nous. Le souterrain de la Règle, il est lié aux moniales, les moniales, donc les moines au féminin, qui occupent le lieu donc depuis très longtemps, mais on les connaît mieux au 9e siècle, au moment des réformes monastiques. Et la Règle, en l'occurrence, c'était la règle religieuse qu'elle suivait autour de la prière, de la contemplation, des travaux manuels. Et elle suivait cela assidûment sous la tutelle de la mère abbesse. Et elle vivait donc dans un enclos qui aujourd'hui est mal perceptible.
On fera travailler notre imagination. Alors poussons la porte et nous allons pénétrer dans les lieux.
Et voilà.
On ne peut plus donc, repartir.
Voilà, vous êtes mon prisonnier pour la journée.
On change d'ambiance hein, tout de suite. On change aussi de température puisque, on le disait, il fait très beau effectivement à l'extérieur aujourd'hui. Donc là, on se plonge à la fois dans l'obscurité, dans une certaine fraîcheur.
Effectivement, hein, nous entrons ici et normalement nous ressortons là. Il n'y a pas d'autre issue à moins de faire la courte échelle. Et nous entrons donc dans un tunnel et la rupture d'espace, de temps, le froid gagne un petit peu, voilà, le visiteur. Nous sommes là dans un tunnel qui est probablement construit à une période postérieure à la partie basse que nous allons découvrir puisque face à nous un escalier un petit peu raide. Et autrefois, une porte en bois qui n'est plus, mais qui était la véritable entrée de ces basses caves. Le tunnel a dû être un rajout plus tardif, peut-être 17e siècle, et il reliait à l'époque un bâtiment. On allait d'un bâtiment directement vers les basses caves.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, quand on pense à souterrain, on peut se dire c'est le travail de la nature qui a œuvré. C'est pas le cas, c'est l'homme qui a agi ici en tout cas.
Tout à fait. C'est un souterrain fait pour l'homme, construit par l'homme, imaginé par l'homme. Contrairement parfois à la nature qui fait bien son œuvre, dans des régions géologiquement différentes, nos voisins, les Périgourdins ou en Charente, des terrains sédimentaires, de calcaire, voient très souvent des gouffres, des grottes, vous savez, tous les stalactites, stalagmites. Et à Limoges, on va être sur des terrains dits migmatites. On reviendra dessus, mais pour dire simplement que ce sont des terrains qui sont creusés par les hommes et non pas par l'action de la nature. Donc depuis les années 90, il est ouvert à la visite. Ça a été entièrement aménagé, éclairé. Pour le confort des visiteurs, bien sûr.
Oui, c'est ça, l'éclairage, on rentre pas dans un musée ici. Vous avez souhaité conserver quand même une ambiance, il y a un éclairage minimum, mais pour vraiment s'immerger dans ce qu'est un souterrain.
Oui, en fait, l'éclairage, il est au service du souterrain. et il vient pointer voilà des éléments architecturaux. Et l'idée, c'est d'avoir des zones d'obscurité et puis des zones de lumière, c'est de créer des contrastes. Donc il y a une sorte de scénographie de la lumière, relativement simple, mais il en faut peu dans un souterrain pour créer l'ambiance. Et puis on a nos télécommandes, donc à tout moment on peut allumer, éteindre. Et à la Noël, ça se fera à la bougie.
Voilà, pour la spécificité, quand on est venu en saison, on peut revenir à Noël. C'est une autre façon de visiter ce souterrain. Il y a des personnalités qui sont liées. On a parlé de ces moines au féminin. Mais il y a des personnalités marquantes de Limoges qui sont liées directement à ce souterrain.
Alors, plus largement autour de l'abbaye de la Règle, nous savons la présence d'un pape venu donc en surface. Je ne pense pas qu'il soit descendu dans les souterrains, mais c'était le pape Urbain II. Pape au XIe siècle connu, il avait prêché la première croisade à Clermont, était remonté par le Bas Limousin. Il a consacré des églises à Limoges et il a célébré des messes à Noël parmi les moniales. Donc un pape est venu. Plus tardivement aussi, Madame Fouquet, qui a été la femme du surintendant disgracié par Louis XIV, l'écureuil qui avait fait de l'ombre au roi Soleil. Madame Fouquet, qui était peut-être une des premières limogées de France, elle a été en exil à Limoges, dans l'abbaye de la Règle. Alors, c'est en surface, mais c'est lié à l'abbaye que nous occupons, finalement, là.
Voilà. Même eux ne sont pas descendus là où nous allons aller, donc c'est un vrai privilège.
Probablement que non, bien que les légendes nous disent que quand l'abbaye a pu avoir cette vocation un peu de détention, des personnes se seraient évadées à travers les parties souterraines. Ouais, ça fait, allez savoir.
Ça fait partie de ces légendes qu'on évoquera d'ailleurs en cours de semaine. Pour l'instant, je vais avoir besoin de mes deux mains pour descendre sans risquer l'accident. Et on se retrouvera un peu plus bas. On va descendre combien ? 8 mètres sous terre ?
Oui, voilà, on est environ 8 mètres sous terre quand nous sommes en bas.
Notre troisième rendez-vous au cœur de cette centième de destination et nous sommes toujours, rappelons-le, en plein cœur du Limousin, dans les entrailles de Limoges, au souterrain de la Règle, dans ce souterrain, avec Éric Bouteau qui est conférencier guide à l'Office de Tourisme. Là, on est au cœur, on l'entend, ça résonne évidemment. Nous sommes vraiment descendus au plus bas de ce souterrain, on l'a dit dans le précédent rendez-vous, on est quoi, 8 mètres sous terre ?
Oui, on est environ à 8 mètres sous terre, donc nous sommes en partie sous le jardin de l'évêché. Et en allant plus loin, nous arriverons sous les maisons, rue de la Règle, des compagnons du Tour de France.
Alors on va évidemment cheminer, une superficie de combien pour ce seul souterrain ? On a un ordre d'idée.
Je suis très mauvais en superficie. Il y a environ un couloir sur une cinquantaine de mètres de long, plusieurs salles adjacentes. Venez voir par vous-même. Alors, on ne propose pas une randonnée, évidemment. En revanche, ce souterrain, on le fait visiter comme modèle dans le sens où tous les éléments qu'on trouve dans les souterrains urbains, ou quasiment, sont visibles ici. Voilà, donc on fait preuve de pédagogie pour qu'après, on devienne un peu cataphile.
Alors, on va peut-être faire un petit tour de ce qui est autour de nous. On voit qu'il y a des coins, des recoins. Il faut regarder à nos pieds, il faut lever la tête. Il y en a un peu partout.
Voilà, dans les parois, des niches, des placards mal fermés. Il n'y a plus le bois a pourri avec le temps.
On a perdu la clé de la porte.
Ne cherchez pas de trésor. Alors on voit l'au-delà, certains endroits.
Voilà, alors là, on est face à l'escalier qui nous a permis de descendre jusqu'en bas de ce souterrain. Effectivement, il y a une petite grille au milieu d'une marche qui nous permet de voir un peu plus loin.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un aqueduc. Voilà, mais qui va très loin.
Pour l'instant, on n'est pas équipé, donc on va rester où nous sommes. Et puis, il y a déjà d'autres choses autour de nous à découvrir.
Oui, alors les éléments intéressants, c'est aussi une histoire de trous. Il y a les trous d'aération qui donnaient l'air, les trous d'extraction qui, eux, permettaient de remonter grâce à des hottes, notamment tous les matériaux de déblai. Les trous de boulin qui, comme sur les granges ou les vieilles demeures ou les châteaux, témoignent voilà des échafaudages pour élever les voûtes. Les silos notamment, et le silo lui renvoie bien à l'idée de stockage. C'était le garde-manger.
Puis un lieu à légende, on aura l'occasion d'en parler dans notre prochain rendez-vous également. La structure qui est autour de nous, la matière donc naturelle, on peut en dire un mot ?
On voit un mur et souvent je fais toucher... il faut que les gens expérimentent.
Je touche alors.
Il faut que les gens éprouvent.
Je touche pour eux.
Alors éprouvez. Ils expérimentent et c'est assez humide, vous êtes d'accord ?
Et friable aussi.
Friable, sans que le ciel nous tombe sur la tête.
Touchons pas trop.
Voilà. Voilà. Effectivement, on va avoir donc des migmatites et on va voir ce qu'on appelle en Limousin du tuf. Alors le tuf, c'est une roche qui s'est arénisée à presque devenir une terre, un sable. On a par exemple du mica, vous savez, tous ces petits cristaux là qui brillent un peu comme des paillettes partout. On a des affleurements de quartz blanc. Et donc ce sous-sol, alors soit les hommes longardé, le substrat rocheux, donc face à nous, il y a de la roche, mais il y a aussi des maçonneries. Voilà, c'est les deux types de parois.
Effectivement, on voit qu'il y a, les traces du travail de l'homme sur les parois.
Effectivement, c'est notre petite chapelle Sixtine, pas de sculpture. En revanche, les témoignages, ce sont des coups, des outils, alors des lames effilées, comme des pics, des pioches. Voilà, un travail ardu qui a été mené par des hommes, malheureusement pour eux, qui ne sont pas restés dans l'histoire.
Et on voit pourtant qu'il y a beaucoup de marques, donc beaucoup de coups, beaucoup de travail.
Beaucoup de coups, et pour bien comprendre le labeur, on dit souvent aux gens, bon, il faut creuser, voilà, ça on le comprend tous, mais il faut aussi amener des éléments pour créer des voûtes, renforcer les parois, et quand on regarde les bords des murs, les chaînages, on voit des solides blocs de granit notamment qui ont été, si je puis dire, amenés, importés dans ces lieux.
On parle de cette matière qui est friable, etc. C'est quelque chose qui malheureusement risque de disparaître. On est obligé aujourd'hui d'y prêter une attention particulière pour être certain de préserver un peu cette histoire.
Effectivement, il y a régulièrement des inspections pour étudier un petit peu l'état des voûtes, des parois.
Ça veut dire que là, c'est une partie qu'on visite, qu'on entretient, mais sur les 70 km existants.
Eh bien, effectivement, mais quand il y a des travaux, il y a eu à Limoges des affaissements, il y a eu des effondrement. Je ne fais pas du catastrophisme. Hein. J'évoque deux, trois
faits. Limoges ne va pas s'effondrer tout de suite.
Limoges ne va pas s'engloutir sur elle-même. En revanche, bien entendu, tout cela demande une surveillance et quand il le faut, des interventions de l'homme.
Est-ce qu'on sait si tout cela communique ?
Voilà, alors ça c'est un des grands points. Souvent les gens viennent nous voir en pensant qu'il y a un souterrain de A à Z qui ferait des kilomètres. En fait, c'est très anarchique. On trouve comme ça des portions de réseau partout. Partout dans la vieille ville, dans les vieilles villes, vous savez, il y avait la cité et la ville haute. Ça communiquait parfois, pas tout le temps. Et nous, on a notre photographie de 2016 qui nous montre des murs bouchés, des endroits qui allaient plus loin et parfois des ouvertures plus récentes. Donc le réseau, ça dépend. On peut avoir des réseaux qui font des plusieurs centaines de mètres de long, comme parfois on peut avoir 4 pièces. Mais sur 3-4 niveaux, hein, imaginez 3 niveaux souterrains. C'est-à-dire qu'on peut descendre parfois à moins 25, moins 30 mètres. Il y a ça aussi.
Là, on est juste à côté d'un escalier qui, lui, mène à l'étage supérieur.
Oui, il y a un escalier qui permet de remonter à une salle où l'atmosphère est plus sèche. On se retrouve là-bas en partie sous les compagnons. Donc là, une salle où il y a une très, très belle colonne, notamment.
On ira voir ça dans notre prochain rendez-vous. Et notre quatrième rendez-vous installé toujours ici en plein cœur du souterrain de la Règle. Nous sommes toujours avec Éric Bouteau. Nous sommes dans le cœur même de l'histoire de Limoges et du Limousin d'une manière générale pour fêter cette centième de destination. On va évoquer les légendes. Quand on est dans un lieu comme celui-là, on a l'impression d'être au cinéma. Il y a des choses, des histoires qui se racontent.
Effectivement, les légendes vont beaucoup apparaître au XVIIIe siècle, notamment un certain Beauménil, comédien de son état, curieusement aussi inspecteur des antiquités. Alors, il vient dans notre contrée, il explore et il va évoquer un temple sphérique de 14 mètres de diamètre qui, en son centre, accueillait une sorte de cube qui avait été taillé dans la pierre et qui était surmonté d'anneaux, des anneaux suspendus au-dessus d'une sorte d'autel qui ensuite a été considéré comme un temple gaulois dans lequel on pratiquait des sacrifices. Mais tout ça n'a pas été accrédité, mais de l'histoire de la petite bergère qui était partie là-bas s'abriter jusqu'à sa disparition, voilà, ce temple gaulois à sacrifice aura fait couler un peu d'encre.
Ouais. On n'a pas de vérification, mais on a envie de laisser planer le mystère. C'est ce qui fait le sel aussi des lieux comme celui-ci.
C'est le sel. Autre histoire. Regardez ce mur, ces eaux un peu rougeâtres. Si on imagine la vie de Sainte-Valérie, c'était une jeune fille qui vivait à Augustoritum, donc autour du 3e siècle. Elle devait se marier avec un homme très puissant de la ville, mais elle va faire la rencontre de Martial. Martial, qui est venu de loin, premier évangélisateur, il amène le christianisme et il va rassembler des foules. Parmi ces gens qui l'écoutent, il y a Valérie, qui va donc être séduite et qui va donc vouloir ne plus se marier. Lui ordonne au bourreau Hortarius de lui faire couper la tête. Et on raconte que Valérie aurait saisi sa tête, l'aurait portée et serait venue non loin de là la laver dans la fontaine de la cave. Alors, on imagine souvent cette femme porter sa tête, circuler dans les souterrains de Limoges. Voilà, donc au-delà de l'évocation un peu macabre, morbide, on est dans un récit religieux hautement symbolique, on coupe une tête, on coupe la croyance ancienne, le paganisme, et on revient à finalement la foi nouvelle. C'est ça aussi. Donc Sainte Valérie, ça fait partie des récits souvent évoqués.
Et qui est presque matérialisé ici. C'est une des petites choses, un des petits clins d'œil que vous présentez au public aussi.
Oui, on peut imaginer en fait à partir d'une pierre qui ressemble étrangement à des épaules, à un cou. En fait, c'est une tête de colonne, plus ou moins un chapiteau à l'envers. On imaginerait un buste. Ne reste plus qu'à imaginer pour le visiteur une tête diaphane, pourquoi pas Valérie.
Et si on imagine cette tête?
Si on imagine la tête rompue, ça ferait à peu près ça.
Voilà, on laissera l'imagination travailler. Ça fait partie de ces légendes, c'est ce qui fascine aussi le public.
Oui, et relayé aussi par les romanciers, notamment Auguste Maquet, qui a été la deuxième plume d'Alexandre Dumas, qui a écrit dans un journal, donc c'était le principe des romans feuilletons, une sorte de nouvelle dont le décor planté est celui de Limoges. Et on s'engouffre, on suit les pas d'un certain Martial dans une ancienne abbaye de Limoges et des panneaux en bois sous des autels qui parfois sont des accès pour les entrailles de la terre. Après, grand écrivain américain Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward, qui nous raconte à une secte sous la cathédrale, près d'une colonne, magie noire, magie blanche, c'est plus, mais pour repousser l'envahisseur. On les reconnaissait à un sceau que je ne porte pas, le sceau de la secte du bouc. Voilà.
C'est pour dire que ça a marqué effectivement ici. De ce côté-là, par exemple, au bout du tunnel, qu'est-ce que l'on peut dire?
Alors, au bout du tunnel, donc, on peut observer une très belle voûte cintrée. On arrive de nouveau sur un cul-de-sac. Il y a en revanche une petite cachette, un trou assez mystérieux. On aime en fait à faire glisser les doigts. Voilà. Si vous voulez, c'est un défi, c'est une épreuve.
Pour les plus courageux.
Pour les plus courageux. On prend la main auquel on tient le moins et on la passe comme ça dans l'obscurité en essayant de trifouiller au fond d'un trou de boulin. Et pourquoi pas ramener une découverte ou pas. L'important, c'est de le faire.
Et notre cinquième et dernier rendez-vous installé au souterrain de la Règle pour cette centième de destination à la découverte des coulisses du Limousin et en l'occurrence des entrailles de l'histoire de Limoges. Nous sommes toujours avec Éric Bouteau qui est guide à l'office de tourisme de Limoges. Et on est monté à l'étage, on était 8 mètres sous terre, là on est remonté un petit peu à la surface.
Alors oui, tout à fait, on est un petit peu déporté. À présent on se trouve au niveau du parking des Compagnons et historiquement donc nous ne sommes plus ici dans l'enclos de l'abbaye de la Règle. On est sous une ancienne maison canoniale, donc, c'est-à-dire une maison occupée par des chanoines qui étaient les prêtres qui assistaient l'évêque dans ses différentes tâches au Moyen-Âge. Et quand on arrive, le focus, c'est une belle colonne, un beau monolithe, un fût, hein, qui pourrait avoir une origine plus ancienne, le silo, donc le réservoir à grains, et au fond d'ailleurs une fosse d'aisance. Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire. C'est un petit peu un repoussoir.
On va marcher dans la fosse sceptique, c'est sympathique. Bon, elle est propre, hein, elle n'est plus guère utilisée aujourd'hui, tout va bien.
Tout va bien de ce côté-là, le 21e siècle est merveilleux.
On fait quelques petits progrès. On voit là sur notre droite que ça monte encore un petit peu, ça veut dire que là encore, on pourrait poursuivre l'exploration.
Il y a toujours eu une volonté pour que des agrandissements soient faits. Alors, serait envisagé un souterrain qui est très proche de nous, serait envisagé un souterrain dans le quartier de la cité un peu plus loin, et pourquoi pas plus loin autour de l'abbaye Saint-Martial. Après, bien sûr, ce sont les aménagements, voilà, certaines contraintes qui peuvent justement ralentir certains projets. Mais en tout cas, il y a eu des impulsions qui ont été données et donc ça laisse présager quand même une volonté à l'avenir.
Il y a des possibilités, mais ça veut dire aussi que c'est un travail colossal parce que on l'a dit en début de semaine, c'est quand même quelque chose de très fragile, donc c'est un travail de longue haleine. On peut pas faire tout et n'importe quoi.
Effectivement, aujourd'hui, quand on fait des travaux dans la ville, il y a des études, il y a des relevés qui sont faits. Et à terme, c'est une véritable connaissance pour les urbanistes, pour les constructeurs et de notion patrimoniale. Il y a une grande cartographie qui est faite au fur et à mesure. Et souvent, le bâti souterrain n'a plus son bâti de surface. Et donc, du bâti souterrain, on arrive à déduire certains éléments pour comment était faite la ville auparavant. Puis c'est un véritable atout aussi, bien sûr d'un point de vue touristique, mais de la connaissance de notre ville. Donc c'est quelque chose qu'il faut justement préserver au maximum.
C'est la mémoire de Limoges finalement est ici, une grande partie.
C'est les coulisses.
On est en plein dans destination, donc tout va bien. Avant de parler de d'autres parties finalement de ces souterrains qui sont visibles sans même forcément qu'on y pense dans la vie de tous les jours, un mot sur ce qui a marqué leur fin d'exploitation. Pourquoi un jour il a été décidé de ne plus les exploiter finalement ?
La vie quotidienne a changé de forme, hein. Surtout au début du XXe siècle. Hein. On a eu les gens se sont appareillés. Hein. Notamment dans les systèmes de conservation, mais déjà bien avant. Hein. Et ce qu'on observe, c'est qu'elles ont servi à la fin du 19e, début 20e, souvent de caves, mais beaucoup de dépotoirs. Et elles ont été abandonnées. Il n'est pas rare que les troisièmes niveaux de descente, où vous pouvez creuser dans le tuf, où vous pouvez avoir des ruissellements, vous trouviez voilà, des gravats, mais vous voyez un arc de décharge, ce qui laisse à témoigner sûrement un tunnel plus ancien. Donc là, bien entendu, ça donne envie d'aller voir,
d'en savoir plus. Quand on est guide ici, on a envie qu'un jour des nouvelles portes s'ouvrent, de nouveaux tunnels se dévoilent pour pouvoir à la fois en découvrir soi-même et puis le faire partager aux autres.
Oui, et puis on le fait découvrir de façon assez différente. Il y a eu dans ce souterrain, alors les cordes n'avaient pas trop aimé, mais des concerts. Bon, ce qui est moins d'actualité, mais il y a eu le dîner presque parfait. Et quand on sort à Limoges, eh ben, on va manger dans un restaurant qui est une ancienne, très belle cave voûtée. On peut aller boire un verre dans un endroit qui est un souterrain. Autrefois, il y avait une galerie d'art dans un souterrain. Il y a des fromages qui sont très bien affinés dans des très belles caves voûtées. Donc, c'est une réalité de Limoges, méconnue mais bien existante.
Alors justement, concrètement, quel type de public ? Est-ce que c'est surtout les locaux qui viennent ?
On a quand même beaucoup de locaux. Quand je dis locaux, c'est le département et voire la région qui a entendu parler de cela et qui veulent le voir de leurs propres yeux. On a des personnes qui viennent de plus loin, des vacanciers, surtout en période estivale. Ben, les grandes vacances, il y en aura deux par jour. Hein. Et souvent, quand un cataphile a commencé à visiter un souterrain, il va faire le tour de la France des souterrains.
Si on souhaite en savoir plus, en tous les cas, le plus simple, c'est évidemment de se tourner vers l'office de tourisme.
Voilà, le site de l'office de tourisme, les brochures, les visites durent environ 30 minutes et pour un coût de 4 euros. Le souterrain fascine, donc commencez par le souterrain de la règle et puis devenez ambassadeur de votre patrimoine et de votre ville. Et donc je vous dis à bientôt sous terre.
On va essayer de retrouver la sortie en ce qui nous concerne, plus que quelques marches nous séparent de la surface.